C'est le support Hamas, c'est ça ici.
Bonjour à tous, c'est une joie toujours de venir ici, même si ça faisait longtemps qu'on n'était pas venus. Mais ça fait toujours plaisir et c'est vrai qu'on se sent bien accueilli et en paix. Aujourd'hui, donc, la prédication, ça sera sur. Apparemment, vous suivez un livre, c'est ça, Marcher en Christ.
Ouais.
Voilà, et on est. Vous êtes, mais on est, je m'inclus dedans, sur le chapitre 3. Et le titre, c'est « Marcher en nouveauté de vie ». Et on va prendre pour cela un passage dans Romains 6, versets 1 à 10. Mais d'abord, j'aimerais juste vous raconter une histoire avant de prendre ce passage. C'est l'histoire de John Newton. Alors, ce n'est pas Isaac Newton, hein, celui qui a fait la loi de... Enfin, qui a fait, qui n'a pas fait, mais qui a pensé à la loi de la gravité. C'est John Newton, c'est quelqu'un d'autre, qui a fui l'Angleterre et qui a été esclave. D'accord ? Et puis voilà, il a eu une vie un peu de misère, une vie d'esclave, et puis il a été traité avec beaucoup de cruauté, et il a réussi à s'enfuir, et après il est devenu capitaine de la marine marchande anglaise, et puis il a mené une vie voilà, immorale, une vie d'impie, une vie de débauche, tout ce que vous voulez, tout ce qui est vraiment voilà, impensable, on va dire. Et puis en 1748, il y a eu sa conversion. Et puis ensuite, il est parti prêcher, en Angleterre, il est parti aussi en tant que pasteur, et puis il a écrit des cantiques, et un cantique très connu qui s'appelle « Amazing Grace », grâce infinie, voilà. Et sur sa tombe, il est écrit, je vous lis, « John Newton ». Ouais, faire passer. Ça ne vous dérange pas d'essayer de voir, ou sinon je fais, mais comme vous voulez. Et après, il y a la photo de la tombe avec ce qui est écrit dessus. « John Newton, ecclésiastique, ancien infidèle et libertin, serviteur d'esclaves en Afrique, qui, par la riche miséricorde de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, a été gardé, rétabli et pardonné, et nommé pour prêcher la loi qui s'était employée pendant longtemps à détruire. » C'est la question qu'on va se poser ce matin. Comment ça se fait qu'un homme comme John Newton mène une vie de débauche, voilà, vraiment mauvaise, et à sa conversion, il puisse prêcher l'évangile, proclamer voilà, que Christ est vivant et être transformé. Ça m'a fait penser aussi à une personne, bon, plusieurs personnes dans la Bible, mais aussi à Paul, qui lui persécutait les chrétiens, mettait beaucoup de zèle pour détruire justement l'œuvre de Christ. Voilà, il persécutait voilà, les chrétiens, et puis il a changé de vie, le Seigneur lui a parlé, il s'est converti, et puis il a écrit voilà, aussi ce texte de Romains. Donc qu'est-ce qui a changé entre sa vie d'avant et sa vie d'après? Qu'est-ce qui a fait qu'il soit une nouvelle personne? Je vous propose donc de lire Romains 6, versets 1 à 10. Romains 6, versets 1 à 10. Que dirions-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Je vais prier. Oui Seigneur, merci pour ce texte, ces paroles que tu as données à transmettre à l'apôtre Paul, qu'on puisse aujourd'hui réfléchir à ce que tu as à nous dire. Seigneur, nous voulons aussi te prier pour que tu prépares notre cœur, que tu nous ouvres à ta parole, que tu ouvres aussi notre intelligence, nos yeux. Est-ce que tu as à nous dire et que ce matin, il y ait au moins une parole, un précepte, un verset, un commandement qui nous touche. Merci parce que Je sais que tu es présent. J'ai foi, Seigneur, que tu agis aussi en nous et que ce matin, on va pouvoir réfléchir à ce qui est écrit et que tu vas nous éclairer aussi sur ta parole. Merci, Seigneur. Amen.
Amen.
C'est un passage voilà, où ça parle beaucoup de mort, de vie. J'ai compté hein, 15 fois sur 10 versets, on entend 15 fois le mot mort, crucifié, enseveli, détruit. Et puis quand même, cette fois, le mot vie, résurrection, vivre. Et on va essayer ensemble de faire le tri dans tout ça et de comprendre ce que l'apôtre Paul a voulu dire par là. Tout d'abord, on va commencer par le verset 1, mais pour comprendre le verset 1, il faut en fait retourner au chapitre 5 de Romains et deux derniers versets, où il est écrit « Or la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. » Et là, Paul il dit, mais il faut dire quoi alors? Il faut dire que c'est bien qu'il y ait du péché, parce que comme ça la grâce abonde. Et c'était une pensée que pouvaient avoir certaines personnes à l'époque, de se dire, bah, c'est bien, plus il y a de péché, du coup, bah, mathématiquement, plus il y a de grâce. Par conséquent, bah, on devrait tous se livrer au péché, comme ça, bah, il y aura encore plus de grâce. Et encore d'autres pouvaient penser, si Dieu se plaît à justifier l'impie, comme on vient de lire, alors ben, ça veut dire qu'il accorde aussi une grande importance à l'impiété. Ça veut dire que l'impiété fournit à Dieu l'occasion de dispenser sa grâce. Bien sûr que non, Paul dit loin de là, et c'est clairement pas ça qu'il faut retenir ce matin, au contraire, ça peut être un danger pour nous, pour certains, et à l'époque c'était un danger. Jude nous rappelle dans sa lettre, il écrit « Car il s'est glissé parmi vous certains hommes, dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement, qui renient notre seul maître et Seigneur Jésus-Christ. » Et effectivement, ça peut être un réel danger de suivre les personnes qui pensent cela. Et Paul ici, il ne parle pas du tout du fait de, en croyant, de succomber occasionnellement au péché, comme cela peut arriver hein, dans la vie de tout chrétien, mais à cause de notre faiblesse, à cause de nos imperfections. Mais il parle ici de choisir un mode de vie, de péché délibérément. Et il dit non, 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 si vous êtes, on va le voir après, c'est pas parce que vous êtes sauvé qu'il faut justement pécher, au contraire, vivez comme Christ a vécu. Ceux qui vivent en Christ sont morts au péché. Il est inconcevable et contradictoire de suggérer qu'un croyant puisse vivre encore dans le péché dont il a été délivré par la mort. Ceux qui vivent en Christ sont morts au péché. Et on va voir tout à l'heure l'impact, l'importance qu'a le mot mort aussi dans ces passages. Dieu accorde sa grâce dans le but précis de sauver du péché. Et seul celui dont l'esprit est le plus corrompu, le plus, avec la logique on va dire, la plus tordue, pourrait prétester que de demeurer dans le péché duquel il a soi-disant été sauvé, honore d'une certaine manière le Dieu Saint, qui a sacrifié son Fils unique. Nous venons de prendre la scène en pensant à ça, Jésus est mort pour nous, pour justement que nos péchés soient pardonnés. Donc cela n'a pas de sens. Alors du coup la question c'est peut-être comment continuer à vivre dans le péché alors qu'on est justement mort au péché. Ouais, notez la question en plus, sommes-nous réellement morts au péché? Comment vivons-nous cela dans notre vie de chrétien de tous les jours? Aucun péché n'est trop grand pour que Dieu ne puisse le pardonner, et que l'abondance incommensurable de sa grâce suffit amplement à couvrir tous les péchés. Ça, c'est le premier point que je vous invite à retenir ce matin. En rachetant une personne, Dieu ne fait pas que de le déclarer pardon, juste, mais il commence dès lors à faire croître la justice de Christ en elle. Le salut ne se résume pas à une transaction légale, voilà, ça y est, t'es sauvé, c'est bon, c'est fini. Mais il donne lieu aussi à un miracle de transformation. L'homme nouveau, c'est la personne régénérée. Il est rendu agréable à Dieu par Jésus-Christ, et sa nouvelle nature est entièrement sainte et juste. Il n'est pas encore parfait ni glorifié, mais il est déjà spirituellement vivant, et la sainteté est déjà en train d'œuvrer en lui. Il est écrit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est le deuxième point à retenir aussi ce matin. Ce n'est pas parce qu'un croyant puisse être entièrement affranchi de tout péché. Ce n'est pas qu'un croyant puisse être entièrement affranchi de tout péché, mais dès que l'instant où il naît de nouveau, il est entièrement séparé du pouvoir dominateur du péché, soit la vie de péché dont Christ l'a délivré par sa propre mort. Tout à l'heure, je vous ferai une petite image justement avec deux champs, vous verrez, ça aidera aussi à comprendre. Comme l'Écriture l'indique clairement dans le livre, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il est impossible de dissocier une relation rédemptrice avec Dieu d'une vie de sainteté. Les deux sont bel et bien liés. Cette vie sainte qui se vit par la puissance de Dieu agissant dans et par le cœur du croyant véritable, par l'intervention rédemptrice de Dieu dans le cœur d'une personne. La vraie sainteté constitue autant un don de Dieu que la nouvelle naissance et la vie spirituelle que cette dernière produit. C'est un lien indissoluble entre la justification et la sanctification. Troisième point à retenir. S'il est vrai qu'aucun croyant ne vivra sans péché, il est aussi vrai que celui qui se dit croyant, mais qui s'entête à se moquer ou à ignorer la seigneurie de Christ par sa désobéissance, ne peut aucunement prétendre avoir été sauvé par Christ. Maintenant, on va développer ce que j'ai dit, pour que ce soit plus précis et plus compréhensible, en prenant quatre arguments, quatre étapes dans l'argumentation de Paul. La première, il dit, nous avons été baptisés. Ouais, ça va, vous suivez. Après, c'est quatre points, donc ça va aller tout seul. J'ai fait beaucoup au début, puis là, vous allez voir, c'est tranquille. Premier point, nous avons été baptisés en Christ. Et ça, c'est le premier principe sur lequel Paul insiste. Tous les chrétiens véritables ont été baptisés en Jésus-Christ. Alors, le baptême. Pensez à toi, Anna, qui, la semaine dernière, elle parlait de baptême. Anna suit une personne pour le baptême. Et puis, la question, c'était, qu'est-ce que représente pour toi le baptême, hein? C'était ce genre de question que tu poses, hein? Et en fait, Paul, ici, il parle du baptême, mais il faut savoir qu'il y a deux sortes de baptême. Il y a le premier baptême, c'est celui en Jésus-Christ, celui qu'on va accepter, celui qu'on est en train justement de lire et que je suis en train de prêcher. Et après, il y a le baptême d'eau. Le baptême d'eau constitue l'identification extérieure d'une réalité intérieure. La foi en la mort, l'ensevelissement, et la résurrection de Jésus. Paul ne plaide pas ici en faveur du salut par le baptême d'eau, d'accord ? Parce qu'on ne parle jamais de baptême d'eau, par contre il parle du baptême en Jésus-Christ. Le baptême d'eau est le symbole public de foi en Dieu. C'est pour ça que les personnes se baptisent. C'est pour témoigner devant une population. Donc là, c'était la question, c'était qui tu vas inviter pour ton baptême et ça, c'est des vraies questions. C'est vraiment un témoignage public. C'est témoigner aussi qu'on appartient à Christ. Mais avant ce baptême d'eau, il y a le baptême en Jésus-Christ, en lui. On ne veut pas être sauvé par le baptême d'eau, mais le baptême d'eau symbolise la foi sincère qui sauve. C'est un témoignage et il symbolise l'immersion en Christ. Deuxième point dans l'argumentation de Paul, il nous dit que nous sommes identifiés à la mort et à la résurrection de Christ. Ça, c'est le deuxième principe sur lequel Paul insiste et c'est aussi une extension du baptême, de ce qu'on vient de développer. Non seulement tous les chrétiens sont identifiés à Christ, mais encore ils le sont précisément en sa mort et en sa résurrection. Nul ne pourrait participer à la vie de Christ sans participer à sa mort, et nul ne pourrait jouir des avantages de sa mort sans avoir part à la puissance de sa vie. Et quand nous prenons la scène, comme nous avons fait tout à l'heure, on se souvient de ce que Christ a fait à la croix, mais on parle aussi de résurrection, de vie. Nous devons nous réconcilier avec Dieu si nous voulons être saints, et nous pouvons être réconciliés avec lui sans par le fait même de devenir saints. Alors je voulais faire, bon, je ne l'ai pas fait du coup, il y a une diapo du coup en moins, mais dans toute la Bible, il est écrit que ceux qui croient, ils ont des nouvelles choses, on est un homme nouveau, on est vraiment nouveau. Et j'ai vu, on a un nouveau cœur, un nouvel esprit, un nouveau cantique, un nouveau nom. On est vraiment qualifié de nouvelle création et d'homme nouveau. Et ça m'amène à mon troisième point. Notre corps de péché a été détruit. Et c'est là où c'est important, c'est que lorsque Christ nous a rachetés, notre vieil homme, notre vieille nature, a été crucifié avec lui. D'accord, il a été mis à mort, il a été détruit. Alors, le mot vieille là-dedans, j'ai cherché. Alors, c'est pas la racine archéos qui dit, qui parle de l'âge. C'est la racine. Je suis désolé, je le prononce très mal, mais palaios. D'accord. Et en fait, ça veut dire inutile, usé, jeté. Nous, faut savoir avec Anna, quand on trie des choses à la maison, avant de jeter, faut vraiment que ce soit qu'on puisse plus s'en servir, qu'il n'y ait pas. Ah bah oui. Ça, peut-être qu'on pourrait s'en servir éventuellement encore pour autre chose, etc. Et là, Paul, il dit ça, il dit, mais votre ancien corps, votre vieil homme, il est jeté, il est détruit. Notre nouvelle vie, à titre de chrétien, ne constitue pas une ancienne vie rénovée, mais une vie toute nouvelle qui nous a été donnée par Dieu, celle-là même de Christ. Pensez à, aussi, je ne sais pas s'il y a des gens qui bricolent parmi nous, qui rénovent des maisons, des choses comme ça, mais si vous avez une vieille maison, peut-être avec une infiltration d'eau, et que vous allez dire, bah, je vais la rénover, je vais mettre un coup de peinture, comme ça on ne verra plus les taches qu'il y a au mur ou au plafond, quand il va pleuvoir et que l'eau va revenir, il y aura de nouvelles taches. Et là, je prends cet exemple, il faut imaginer que Christ avec nous, c'est comme s'il cassait les murs, et il refaisait quelque chose de nouveau, quelque chose de bien, où il n'y aura plus de fuite d'eau, même s'il y a des tempêtes. Et on va développer un peu cette pensée avec le verset suivant, dans Romains 6, 6, je vais le relire, enfin avec ce verset-là, pardon. « Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. » On va juste prendre trois idées dans ce texte. La première, c'est que notre vieil homme a été crucifié, comme on vient de dire. Il a été crucifié avec Jésus-Christ. Et la crucifixion, ce n'est pas des douleurs extrêmes. Ce n'est pas que, pardon, des douleurs extrêmes. Mais c'est aussi la mort. À cette époque, quand on crucifiait les gens, ce n'était pas... allez, on en met... je dis une bêtise, mais on en met 20 et on va voir celui qui s'en sort. Non, les 20 personnes qu'on mettait, par exemple, c'était pour mourir. Les trois personnes qui ont été crucifiées... les deux brigands à Jésus, la suite logique finale, c'était la mort. Et quand on parle de crucifixion, quand dans ce verset on lit bien, notre vieil homme a été crucifié avec Christ, en Christ. Paul déclare clairement que le fait pour un non-croyant de s'être dépouillé du vieil homme est irrévocablement un fait accompli. Et il dira dans Colossiens 3, versets 9 et 10, « Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. » Il y a vraiment une séparation. Le deuxième point, c'est notre mort au péché s'est produite en Christ sur la croix, et elle a eu pour résultat que le corps du péché a été réduit à l'impuissance. C'est pareil, pour moi, ça coulait de source, mais c'est important de se le dire ce matin. Le péché qui est mort est réduit à l'impuissance. C'est une bonne nouvelle, hein? Nous avons la victoire en Christ, et là, le péché a été mort avec Christ. Il a été réduit à l'impuissance. Il est donné à tout chrétien mûr de l'apprendre. Plus il grandit en Christ, plus il devient et prend conscience de la présence du péché dans sa vie. Plus il s'affermit, plus il prend conscience de ça, que le péché a de l'emprise dans sa vie. La tyrannie et le châtiment du péché qui s'exercent dans et sur la vie du chrétien ont été éliminés. Mais la capacité que le péché de s'exprimer dans sa vie n'a pas encore été entièrement éliminée. Et ça viendra au dernier jour. Il est une nouvelle création, rachetée et sainte, emprisonnée dans un corps de chair non racheté. On en parlera encore, on va détailler aussi ça tout à l'heure. Et le troisième point, là, toujours dans ce verset 6, Paul dit ne plus être esclave du péché, mais être esclave de la justice. Être affranchi du péché, il dira plus tard en versets 17 et 18, toujours dans le même chapitre, « Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. » C'est soit l'un, soit l'autre. Comme nous l'avons déjà mentionné, Paul n'enseigne pas ici qu'un chrétien n'est plus capable de pécher, mais plutôt qu'il ne vit plus sous la compulsion et la tyrannie du péché. Pour ça, j'ai pensé à une image, enfin j'ai pensé, non, je me suis inspiré d'une image. Il faut imaginer deux champs, avec une séparation au milieu. Un champ, ça représente le champ du diable, de Satan, et puis c'est lui le maître, donc dans son champ. Et puis de l'autre côté, c'est le champ de Christ, c'est lui le maître. Et à notre conversion, on passe d'un champ à un autre, et on n'est plus sous la juridiction. Merci. Merci. De Satan, mais de Christ. Et même si en travaillant dans le champ de Christ, et bien parfois on peut détourner notre regard de Christ et regarder au champ de Satan, parce que Satan nous appelle, nous dit regarde-moi toutes les belles choses qu'il y a encore pour toi, regarde, je sais pas moi, ça peut être plein de choses hein, qui nous détournent de Dieu. Et bien on est sous l'emprise de Christ et plus de Satan. Satan n'a pas le pouvoir de ramener le croyant dans l'ancien champ du péché et de la mort. Le quatrième argument de Paul et le dernier, c'est la mort de Christ a été la mort au péché. Ce que nous avons dit un peu plus haut, on va le détailler ici. Comme l'apôtre l'indique clairement dans le verset 10 par rapport à Christ, il ne parle pas du simple fait d'exister dans la présence de Dieu, mais de vivre en accord avec Dieu, c'est-à-dire de vivre une vie pleinement conforme à la sainteté de Dieu. Il ne s'agit pas de dire, c'est bon, je suis en Christ, je peux faire ce qu'on disait aussi tout à l'heure, je peux faire ce que je veux. Mais c'est justement de vivre en accord avec les principes et en conformité avec la sainteté de Dieu. Et Paul, on dirait qu'il veut dire deux choses en déclarant ça. C'est que Christ est mort pour payer le salaire du péché, en se chargeant des péchés du monde entier. Il a satisfait aux exigences de la loi quant au péché pour tous les hommes qui allaient mettre leur foi en lui. Par leur foi en Christ, rendu puissant et par sa grâce divine et infinie, les croyants sont morts au péché, sur le plan de la loi. Et deuxièmement, Christ est mort pour vaincre le pouvoir du péché, anéantissant, pour toujours le pouvoir qu'il exerce sur ceux qui appartiennent à Dieu, par leur foi en son Fils. Et on lira dans 2 Corinthiens 5:21, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Ce qui est important à se rappeler, c'est qu'il a remporté une victoire qui n'aura jamais à être répétée. C'est fait, c'est fini. Et ça c'est ma conclusion justement de tous ces versets, de tout ce qu'on vient de dire. Pour moi, clairement, c'est blanc et c'est noir. Ou pour prendre l'image du champ, c'est noir et c'est blanc. Il n'y a pas de retour, il n'y a pas de oui, mais... si je pêche, oui, mais ça, etc. Christ, sur la croix, a payé le prix une fois pour toutes. Et il nous demande de croire en lui, d'avoir foi en lui et de vivre en lui. Nous nous identifions également à notre Seigneur dans ses souffrances, car nous, à l'instar de Paul, portons les marques des souffrances que nous endurons pour Christ. D'innombrables manières, les croyants s'identifient si entièrement au Seigneur Jésus-Christ qu'il n'a pas honte de les appeler frères. Alors, mon vœu, ma demande, je ne sais pas ce que je souhaite, oui. C'est qu'aujourd'hui nous puissions saisir cette vérité, que nous avons été crucifiés avec le Christ et que nous vivons aussi avec le Christ. Et je ne peux plus m'empêcher d'aller chercher dans Galates encore un verset qui résume ça. J'arrêterai de parler de vie et de mort ce matin, et plutôt que de vie. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je vais prier. Oui, merci Seigneur, parce que vraiment ce matin, mon cœur est en joie. Vraiment en joie parce que c'est vrai, tu es mort pour nous, pour nos péchés. Tu nous as délivrés de l'emprise de la mort. Tu as réduit à l'impuissance le pouvoir du péché, Seigneur. Et c'est bon, et ça me rend joyeux de savoir que tu as été au-delà, tu as ressuscité, et tu désires vivre en nous, Seigneur. Que ce matin, nous puissions te faire toute la place, de notre cœur, de notre vie. Nous puissions nous imprégner de cette vérité de notre vie de tous les jours. On a parlé beaucoup de mort, de vie, mais ce matin, je veux aussi tourner mes regards vers toi et dire oui, Seigneur, tu vis en moi. Et je t'accepte réellement dans ma vie et dans mon cœur. Merci de nous aider, de nous fortifier, de nous encourager cette semaine, pour la semaine qui vient. Nous donner aussi le temps à la maison de relire ce passage et de comprendre cette vérité profonde, Seigneur. Merci encore parce que tu nous parles, parce que tu es présent au milieu de nous. Tu n'es pas juste une fable, tu n'es pas juste un conte qu'on pourrait raconter pour dire, bah, voyez, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous êtes justifié. Au contraire, Seigneur, tu agis puissamment et que nous puissions te laisser faire. Béni sois-tu. Amen. Merci.